Alors nous n'avons pas un gros morceau de toit, puisque aussi ni plus ni moins que d'un ministère qui est très particulier dans l'Église catholique et qui est central, c'est le ministère papal. La question du pape. Dans la définition moderne que les catholiques en donnent, il s'agit en fait du ministère de l'unité, disent-ils. C'est-à-dire, dans la dernière définition qui date de lundi dernier, que j'ai eue directement du secrétaire du cardinal Bouillon, du secrétaire de la pastorale là-bas, c'est que le pape est le ministère qui fait le lien entre les différentes églises locales. Voilà, alors c'est très, très subtil, leur définition, ça, très subtil. En fait, dans la théologie catholique classique, le pape, qui se définit comme le serviteur des serviteurs de Christ, se définit aussi comme le vicaire, et désigné comme le vicaire du Christ, c'est-à-dire le remplaçant du Christ, à la limite, disons, un peu celui qui exerce les prérogatives et les fonctions du Christ sur la terre. L'institution papale en elle-même, nous verrons quand nous ferons l'histoire d'Église, nous abordons cette question d'histoire d'Église, puisque l'institution papale, bien entendu, va occuper une très très grande place dans l'histoire d'Église.
Est-ce que tu connais le bord de
l'Église papale est tout simplement le décalque dans le domaine de la société religieuse qui suit la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, de l'institution impériale. Lorsque le christianisme devient la religion d'État, au début du IVe siècle après Jésus-Christ, par la conversion de l'empereur, il y a toute une réorganisation de la structure de l'Église qui résulte, je dirais, de la prise en main, de la prise en charge de l'État romain, que l'État romain met sur l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, jusqu'alors, était divisée en un certain nombre de sièges apostoliques qui avaient à leur tête des évêques, des patriarches, on les appelait aussi parfois. Par exemple, il y avait le siège apostolique d'Alexandrie, il y avait le siège apostolique de Jérusalem, il y avait le siège apostolique d'Antioche, il y avait le siège apostolique de Constantinople, et puis il y avait le siège apostolique de Rome. À partir, disons, ces différents sièges apostoliques qui avaient une importance qui était proportionnelle à leur nombre, à leur ancienneté, à leur histoire, etc., avaient en quelque sorte une égalité. Les tenants, disons, ceux qui se trouvaient les évêques de ces sièges-là, les patriarches de ces sièges-là, avaient pratiquement une autorité égale. Quand ils se rassemblaient en concile, en synode, etc., il n'y avait pas de véritable prééminence des uns par rapport aux autres. Et c'est ce que font valoir jusqu'à ce jour, d'ailleurs, les orthodoxes. C'est ça qui différencie les orthodoxes des catholiques. C'est que les catholiques ne reconnaissent, les orthodoxes, pardon, ne reconnaissent pas ce qui va être le résultat de la conversion de Constantin, c'est-à-dire la primauté du siège épiscopal de Rome. Voilà. Car avec la conversion de Constantin, il y a un changement de ce statut-là, ce statut d'égalité des grands sièges apostoliques du christianisme primitif, et l'évêque de Rome va avoir au sein du collège des évêques et des patriarches une position privilégiée, une position dite de primauté, qui n'est pas encore ce qu'elle sera à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire celui d'un pouvoir absolu et infaillible, mais par une évolution assez lente, on va aller, justement, à partir de la conversion de Constantin, vers cet état de fait qui va trouver son apogée, d'ailleurs, à l'époque du Haut Moyen-Âge, après les invasions barbares, quand les pieds de l'Empire romain va s'écrouler, et où l'Église va sauver en quelque sorte l'héritage classique, l'héritage gréco-romain, et où par conséquent le chef de l'Église d'Occident, le pape, l'évêque de Rome, va devenir en pratique un véritable monarque absolu, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi d'une certaine manière sur le plan temporel. Et il va disputer ce pouvoir temporel aux rois, aux empereurs, etc., qui vont être sous sa juridiction. Alors, l'institution papale a émergé progressivement, parallèlement, finalement, à l'institution de l'Empire romain. Par exemple, à partir de la conversion de Constantin, on découvre que le premier titulaire du siège épiscopal de Rome a été l'apôtre Pierre. Nous verrons ce qu'il faut penser tout à l'heure de cette assertion. Et par conséquent, le siège épiscopal de Rome aurait cette grande importance, non seulement au fait que l'évêque de Rome est l'évêque de la ville qui est la capitale de l'Empire, parce que tout part de là finalement, c'est la seule et unique raison de la primauté de Rome sur les autres évêchés, c'est que c'était la capitale de l'Empire romain, c'est tout, enfin, historiquement c'est tout. Alors, pour essayer quand même d'asseoir cette autorité du siège romain sur quelque chose d'un petit peu plus solide et d'un petit peu plus sérieux que une simple raison politique, on découvre que le premier titulaire de ce siège a été l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, on découvre aussi dans l'Évangile, qu'il occupe dans le collège des douze, dans le collège des apôtres, une position privilégiée. Et l'Église catholique va faire grand cas du texte de Matthieu 18, où Jésus, après la confession de Pierre, hein, Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne vont pas contre. Je te donnerai les clés du séjour des morts, etc. Ce que tu fermeras sera fermé, ce que tu diras sera lié, ce que tu diras sera délié, etc. etc. » Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, parmi les attributs symboliques pontife romain, car c'est ainsi qu'il est appelé. Et remarquons que le mot pontife, entre parenthèses,
même que le nom de paganisme.
Voilà, c'est directement la transcription dans le domaine chrétien de l'institution religieuse de la Rome païenne. Le pontife, pontifex maximus en latin, c'était le chef des prêtres de la Rome païenne, disons de la religion païenne de Rome. Et le pontifex maximus, maintenant, ne sera plus le pontife de Jupiter, mais le pontife du Christ. C'est tout simplement l'étiquette, plutôt le destinataire du culte qui a été remplacé, mais l'institution reste la même, si bien que les Romains qui se convertissent au christianisme dans la foulée de l'empereur ne sont pas tellement dépaysés. On construit aussi, à cette période, justement à Rome, pour usage du culte chrétien, du nouveau culte chrétien, des basiliques, basilica. La basilica, c'est une institution romaine aussi, c'est un grand édifice public romain, d'ailleurs consacré à des usages profanes, des usages non religieux.
On y voit la vie.
Oui, entre autres. Et c'est là donc que les églises, plutôt les assemblées de culte, se rassembler et la basilique va devenir une des institutions de l'Église catholique jusqu'à nos jours. Alors il y a vraiment cette adoption, n'est-ce pas, cette transformation du culte romain païen dans une perspective chrétienne. On christianise toutes ces choses-là et l'Église va être l'Église de Rome, puis l'Église d'Occident, en attendant l'Église tout entière, va être structuré sur le même modèle que la structure romaine de l'État. À la tête de l'État romain, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'empereur. L'empereur qui, en fait, est un monarque absolu. Les décisions qu'il prend sont absolument sans appel. Bon, à la tête de l'Église, vous avez le pape qui est un monarque absolu. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique est une des rares institutions institution qui subsiste aujourd'hui dans notre monde, où vous avez un homme qui a un pouvoir absolu sur elle, à l'image de ce qui se passait dans l'Empire romain d'autrefois. Bon, pour assister l'empereur dans ses fonctions, vous avez le Sénat, c'est-à-dire en quelque sorte un conseil. Et autour du pape, vous avez la curie. La curie, c'est le pendant religieux de l'institution laïque du Sénat, qui est composé de cardinaux, c'est-à-dire de sénateurs catholiques, si vous voulez. Enfin, c'est la transposition dans le domaine religieux de l'institution romaine du Sénat. Bon, les sénateurs étaient nommés par l'empereur, les cardinaux sont nommés par le pape, on retrouve le parallélisme à fond. Et la juridiction du pape s'étend dans le monde entier, comme s'étendait la juridiction de l'empereur. Il peut intervenir directement dans les affaires intérieures d'un diocèse, dans les affaires intérieures d'une église, etc. Les titulaires de ces diocèses, de ces paroisses, etc., lui doivent une obéissance absolue. Et lorsque, par exemple, un religieux catholique formule les trois vœux qui font de lui un clerc, comme nous l'avons vu la dernière fois, qui sont le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, l'obéissance ultime, c'est l'obéissance au pape. Enfin, à la hiérarchie, mais au sommet de la hiérarchie, il y a le pape. Enfin, lorsque l'évêque donne un ordre à un prêtre, prêtre de paroisse ou autre, il le fait en dernier ressort avec l'autorité du pape. Et théoriquement, s'il y a contestation, la chose peut remonter jusqu'au pape. S'il y a un litige entre, par exemple, un prêtre et un évêque, théoriquement, le prêtre peut faire appel au pape. En réalité, je pense que ça doit être assez rare. Mais vous savez, par exemple, que dans certains cas, des laïcs eux-mêmes doivent en référer au pape. Par exemple, dans des questions de mariage nul. Par exemple, si quelqu'un s'est marié, etc., puis qu'il est divorcé, il y a eu ce cas dernièrement, c'était assez grotesque d'ailleurs, avec la princesse de Monaco, qui avait épousé cette espèce de gigolo là, dont elle a divorcé quelques temps plus tard. Et alors, comme la famille de Monaco était une famille très catholique, etc., ils ont fait appel au pape pour que le pape casse le mariage, annule le mariage, pour un certain nombre de vices de forme, choses semblables. Dans un cas semblable, seul le pape est habilité à déclarer nul et non avenu un mariage qui a été contacté par ailleurs légalement devant un ministre reconnu du culte catholique. Dans le cas échéant, d'ailleurs, Jean-Paul II a refusé. C'était autre chose, il a eu une position qui était bonne. Mais en fait, donc dans des cas semblables, seul le pape peut trancher. Alors le pape est vraiment l'institution ultime. Le dernier ressort, celui qui tranche d'une manière souveraine et sans appel. Comme le faisait l'empereur à l'époque où l'Empire romain subsistait. Alors, bien sûr, une telle institution, on s'en rend tout de suite compte, est tout à fait étrangère à l'Évangile et à l'esprit de l'Évangile. Il faudrait reprendre par exemple ce que Jésus dit de l'exercice du ministère d'autorité, quand il dit que ministère d'autorité, comme d'ailleurs l'a vu l'Église catholique, mais ne l'a pas pratiqué, elle le dit, c'est se mettre au service des autres. Alors évidemment, la formule est très belle, le pape, le serviteur des serviteurs du Christ, on peut se demander si c'est toujours le cas. En fait, l'institution papale est plus le reflet d'une puissance, la puissance de l'Église catholique, puissance finalement temporelle. L'institution papale a toujours tenu à cette puissance temporelle. Jusqu'à 1870, le pape était aussi un souverain d'un État indépendant conséquent, les États de l'Église, les États du pape, qui avaient Rome pour capitale. Et lorsque l'unité de l'Italie s'est faite en 1870, le pape a été dépossédé de ses États. Ça a été un drame terrible pour l'Église catholique, pour les catholiques qui restaient fidèles au pape, qui se voyaient contraints en quelque sorte de lutter contre lui sur le plan militaire, sur le plan temporel, parce que le pape, jusqu'en 1870, il avait des soldats, pas des soldats d'opérette comme bien aujourd'hui, vous savez, leur C'était comme ça les Suisses, mais c'était des soldats qui combattaient et qui se sont opposés aux troupes italiennes qui venaient chasser le pape de Rome. Et ce n'est qu'avec Mussolini, en 1936, au moment de ce qu'on appelle les accords de Latran, que Mussolini a concédé un statut d'extraterritorialité à la cité du Vatican, qui est devenu un État indépendant, avec des représentations diplomatiques. Par exemple, l'État français a une ambassade au Vatican. Le pape est considéré comme un souverain, comme le président de la République, comme la reine d'Angleterre, tout ce que vous voudrez. À ce titre, il peut se présenter à l'ONU, vous savez qu'il a fait des discours à l'ONU, en tant que représentant de l'État politique du Vatican. Et le catholicisme romain ne conçoit pas l'exercice du ministère papal sans cette autorité temporelle, donc sur un État qui soit absolument indépendant. Alors évidemment, ça peut être aussi extrêmement discutable, même si c'est aujourd'hui pratiquement plus symbolique que réel, mais même dans cette symbolique, n'est-ce pas, il y a toute une démarche d'esprit, toute une pensée qui aussi est tout à fait étonnante et tout à fait étrangère à l'esprit des musulmans. Mon royaume n'est pas seulement. Or, là, nous avons une institution qui tient absolument à avoir un royaume qui est ce monde, même si c'est un État symbolique, un État dont on fait le tour en 2 heures, comme ça, mais qui quand même est une véritable puissance, le Vatican, sur le plan, pas militaire, mais sur le plan, je dirais, politique. Par exemple, Staline, à la fin de la guerre mondiale, disait ceci avec ironie, je crois que c'était à De Gaulle ou à Churchill, qui lui parlait du pape. Et plutôt, Staline disait, le pape, combien de divisions en fait, il n'avait pas mesuré la puissance politique qu'avait l'institution papale. Vous savez, par exemple, que l'État du Vatican a le meilleur service de renseignement du monde. Le meilleur service de renseignement du monde. Au point de vue empire financier, c'est absolument extraordinaire. L'État du Vatican contrôle les principales banques d'Italie. Une banque qui porte un nom particulier, quasi blasphématoire, la Banque du Saint-Esprit, qui dépend du Vatican, et qui est la principale banque d'Italie. L'État du Vatican a des actions dans un très très grand nombre d'entreprises capitalistes, qui sont financières, industrielles, etc. Et en Italie, et au-delà, il représente une véritable puissance politique, dont le pape, évidemment, est le chef. Je parlais tout à l'heure des représentations diplomatiques. Dans tous les pays du monde, il y a des ambassadeurs du pape, qu'on appelle des nonces apostoliques. Les nonces apostoliques sont des prélats nommés par le pape directement, et qui défendent dans tous les pays du monde qui ont des relations diplomatiques avec le Vatican, les intérêts de l'État du Vatican. Alors là, nous avons affaire à une véritable puissance temporelle, une véritable puissance politique, et qui tient à le demeurer, qui tient à le rester dans tous les sens du terme. Donc il y a aussi cette espèce de petite police d'appart d'opérette, là, qui sont les gardes suisses du pape, mais qui sont le vestige de l'ancienne splendeur du pape. Vous savez qu'il y a eu des papes dans l'histoire qui étaient des papes guerriers, par exemple le pape Jules II était un pape qui, à la tête de ses troupes, chargeait les ennemis et puis les pourfendait allègrement au nom du Christ. Hein. C'était un grand capitaine et il a eu d'ailleurs un certain génie militaire. Bon, alors voilà à quoi aboutit finalement cette institution de la papauté. Alors évidemment, on peut s'étonner et se dire, mais comment ça a été possible? Comment Jésus qui a dit, mon royaume n'est pas ce monde, comment Jésus qui a refusé justement que la foule vienne pour le faire roi, peut-il en quelque sorte cautionner cet homme qui se dit son représentant, qui se dit son successeur sur la terre d'une certaine manière, et qui prend le contre-pied de tout ce qu'il a été et de tout ce qu'il a fait. Alors, il faut revenir, encore une fois, je disais tout à l'heure, à ce texte de Matthieu 18, dont les catholiques font le plus grand cas, et qui affirme la primauté de Pierre. Pierre, dans la tradition catholique, est le premier des papes. Pierre a reçu du Seigneur le pouvoir des clés, et le pape, dans ses attributs symboliques, a les clés de Saint-Pierre, c'est là qu'il porte l'hymne du Vatican, l'hymne national du Vatican, parce qu'il a, il a un hymne national, il y a un drapeau, il y a tout, hein. Eh bien, c'est effectivement, tu es Petrus, tu es Pierre, hein, qu'on chante, qui est joué par la chambre. Comment ? C'est une chose, c'est pas un bouton de sujet, c'est meilleur que celui qui sont les reins et les cœurs, nous nous demandons de constater ce qui est. N'est-ce pas ? Donc, Pierre apparaît dans la tradition catholique comme le chef des apôtres, comme celui qui a reçu du Seigneur le pouvoir absolu, lié et délié. Et le pape de Rome, donc le successeur de Pierre sur le trône de Rome, sur le siège apostolique de Rome, hérite ipso facto de ce pouvoir déclé, de ce pouvoir absolu. Maintenant, le pape a non seulement un pouvoir temporel, mais il a aussi un pouvoir spirituel, un pouvoir de Dieu. Par exemple, c'est lui va reconnaître en dernier ressort, après évidemment avis d'une commission ad hoc, qui va trancher ce qui est décanonisation. Vous savez, reconnaître si quelqu'un est saint et par conséquent s'il est digne de sortir du purgatoire, puis d'accéder dans la félicité. Le pape décide, et puis ce qu'il décide sur la terre est ratifié dans le ciel. Le pape peut accorder à un certain nombre de pécheurs repentants, des indulgences plénières, c'est-à-dire qu'il leur accorde dans des occasions particulières, et à la suite de certaines conditions qui ont été remplies, par exemple des pèlerinages ou des choses semblables, d'avoir une rémission de peine dans l'au-delà, c'est-à-dire essentiellement dans le purgatoire. Il peut aussi décider, n'est-ce pas, prendre un certain nombre de décisions qui vont avoir une certaine résonance aussi dans le ciel, que le Seigneur ratifie, n'est-ce pas, à cause de ce pouvoir de lier et de délier qu'il a accordé à Pierre et, dit la tradition romaine, à ses successeurs. Et vous savez que ça a été d'ailleurs une des raisons de la réforme, puisque le pape de l'époque de Luther, dont j'ai oublié le nom...
C'était Léon X, non ?
Et peut-être bien. Léon X n'en viendrait pas. Léon X, c'était un...
C'était quoi, là ?
Oui. Enfin, peu importe. Avait voulu construire la cathédrale Saint-Pierre, cette immense basilique qui se trouve justement à la cité du Vatican. Et bien entendu, ça coûtait quelque argent. Alors, le pape avait envoyé un certain nombre de légats, du pape qui s'appelle les légats, dans toute la chrétienté d'Europe, en proclamant une indulgence plénière. Et il y avait en particulier à Rome, à Württemberg, où était Luther, un moine du nom de Tetzel, légat du pape, qui faisait des prédications fort émouvantes. Il avait une grande, un tronc percé, n'est-ce pas, pour que l'argent rentre dedans. Il agitait ça et disait, voilà, dès que votre argent touche le fond de mon tronc, n'est-ce pas, les âmes s'envolent du purgatoire. Alors, ému par Luther, au revenu du rite, Luther a trouvé que ça faisait un petit peu de trop, et il a affiché le dimanche suivant sur les portes de la cathédrale de Württemberg, en 1517, n'est-ce pas, les fameuses thèses, où il affirmait la grâce du Seigneur entière et gratuite, le salut par la foi, etc. Moi, c'était le départ de la réforme. Et ça, c'était le résultat d'une décision du pape, partant justement de ce pouvoir qu'avait le pape de lier et de délier. Alors, partant de cette pensée, eh bien, le pape, ensuite, dans l'histoire, est devenu non seulement quelqu'un qui avait un pouvoir temporel, mais aussi un pouvoir spirituel absolu, non seulement dans le domaine des indulgences, des rémissions, des canonisations ou des choses semblables, mais aussi sur le plan de la doctrine. Et c'est ainsi qu'après beaucoup de réticences, notamment de la part du clergé allemand, au premier concile de Vatican, en 1870, un dogme a été publié. C'était le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ce dogme dit à peu près ceci. C'est que lorsqu'il parle en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, que Dieu, plutôt que Jésus, a promis à Pierre et ses successeurs, le pape est divinement gardé de toute erreur et, par conséquent, ce qu'il dit a un caractère d'infaillibilité et apparaît comme étant l'égal de la parole de Dieu. C'était curieux d'ailleurs, il y a quelques années, dans un journal canadien charismatique, entre guillemets, je disais quelque chose comme ça. Pierre a reçu du Seigneur le pouvoir d'infaillibilité, etc. Alors, où en es-tu par rapport à l'obéissance au Seigneur? Vite, abonne-toi à l'Observatore Romano et tu auras toutes les semaines de la parole de Dieu pure et directement de la bouche du successeur de Pierre et que tu pourras mettre en pratique quelque chose comme ça. Alors, ça reste très fort dans la pensée catholique, n'est-ce pas, cette idée de l'infaillibilité du pape. Alors, évidemment, quand on parle de l'infaillibilité du pape, ça ne veut pas dire que le pape est infaillible dans tout ce qu'il fait, d'après la doctrine catholique, mais seulement quand il parle en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, c'est-à-dire dans le domaine spirituel et en particulier dans le domaine de la doctrine et du dogme. Le dogme, nous l'avons vu dans la doctrine catholique, c'est ce qui émane donc de la tradition et qui par conséquent, ou de la Bible d'ailleurs, et finalement qui est la parole de Dieu. Et alors le pape a la possibilité, par l'Esprit Saint, disent les catholiques à la suite de Vatican Ier, d'avoir une grâce spéciale du Seigneur pour que lorsqu'il élabore ou lorsqu'il publie des dogmes, eh bien cela soit pur et entaché de toute erreur et que le Seigneur les ratifie. Alors il y a tous les pouvoirs énormes que le pontife romain a dans la doctrine catholique. C'est vraiment l'homme qui a le pouvoir absolu, c'est vraiment le César, l'empereur des catholiques. Alors évidemment, aujourd'hui, on met ça un petit peu sous le boisseau, je disais tout à l'heure, dans cette formule, le pape est celui qui exerce le ministère de l'unité entre toutes les différentes églises locales, etc. C'est bien beau, mais il y a toute une dimension qu'on laisse de côté lorsque, aujourd'hui, le catholique définit le ministère du pape comme un simple ministère d'unité. Entre les différentes églises, veiller à ce que la doctrine saine soit bien enseignée dans ces églises-là, et puis régler les conflits et les litiges éventuels qui pourraient éclater entre elles. En fait, le ministère du pape, tel qu'il apparaît dans la pratique de l'Église catholique, et ceci encore aujourd'hui, apparaît comme étant bien plus que cela, bien plus qu'un simple ministère d'unité. Et dans le fond, si aujourd'hui, dans le monde catholique, on présente le pape, le ministère papal, comme un ministère d'unité, c'est précisément avec des arrières de pensée que vous devinez tout de suite. C'est-à-dire que dans le fond, s'il exerce un ministère d'unité pour unir un certain nombre d'églises locales, les églises qui ne sont pas rattachées à Rome et qui sont toutefois à la recherche de l'unité, pourrait peut-être trouver dans un ministère d'unité, le ministère d'unité qu'exerce l'évêque de Rome, quelque chose qui serait susceptible de les intéresser. Et on sait, par exemple, que ces derniers temps, en particulier, les anglicans n'ont pas été insensibles à ce genre d'argumentation, puisqu'il est fortement question, ça coince un peu depuis quelques semaines, mais ces derniers temps, il était fortement question, n'est-ce pas, que des accords spéciaux soient conclus entre l'Église anglicane et puis l'Église catholique. Le pape devait même se rendre en Angleterre pour faire avancer les choses dans ce sens-là, non pas pour que l'Église anglicane soit purement et simplement absorbée par l'Église catholique, mais pour qu'il y ait des accords qui pavent la voie, finalement, une phase ultérieure pour une semblable réunification. La papauté l'ordre aussi beaucoup, évidemment, en direction de l'Orient, en direction des orthodoxes, se disant que s'il pouvait évidemment aussi faire en sorte que les orthodoxes reconnaissent le ministère de l'Unité, bien c'est une chose assez intéressante. En fait, les orthodoxes sont très 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 réticents et ils ont toujours été extrêmement allergiques à cette pensée de la primauté du pape de Rome. Ils ont tenu absolument à l'indépendance et à l'autonomie des sièges apostoliques, qui sont qualifiés dans la tradition orthodoxe d'autocéphales à cause de cela. Alors vous avez aujourd'hui dans la tradition orthodoxe le siège, le patriarcat de Moscou, qui est le principal. Vous avez le patriarcat de Constantinople, qui regroupe les Grecs essentiellement, même s'il se trouve en dehors de la Grèce. Vous avez le patriarcat d'Alexandrie pour ce qui est des Coptes égyptiens. Et puis vous avez des patriarcats moins importants, par exemple, vous avez, je crois, un patriarcat, c'est pas à New York, un truc comme ça, qui regroupe en quelque sorte l'Amérique et l'Europe à la fois, quoi, parce que les orthodoxes sont tellement peu nombreux que finalement, le patriarche de, ça doit être New York, ou de, non, de Boston, je crois, c'est à Boston, que le siège orthodoxe. Alors, par exemple, les quelques orthodoxes qui sont à Rennes, parce qu'il y a une petite communauté orthodoxe à Rennes, ils dépendent de Boston. Mais ils ne sont pas du tout attirés par cette idée du ministère de l'unité, du ministère de l'unité du pape. Alors, maintenant, voyons une critique biblique de l'institution papale. Bon, il faut reprendre les choses à nos sources, c'est-à-dire Matthieu 18. Alors, je crois qu'il nous est difficile de nier que dans le collège des 12, Pierre avait une place particulière. C'est clair. Il y avait, dans le collège des 12, un groupe de 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui jouissaient d'une place privilégiée. Et au sein de ces 3, il y avait Pierre qui, lui, effectivement, avait aussi une primauté. Et le texte auquel les catholiques font référence, le texte de Matthieu 18, « Tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon église », quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, quelle que soit l'interprétation que l'on donne au jeu de mots que Jésus fait, qui n'apparaît pas dans les traductions françaises, sur le Petros Petra, sur lequel je vais revenir dans un instant, il faut reconnaître que Pierre, effectivement, reçoit une primauté sur les autres apôtres. Maintenant, évidemment, les catholiques, dans leur interprétation, puisqu'ils interprétaient jusqu'à ces dernières années le texte ici dans la traduction latine, la Vulgate, tandis que dans le texte original, Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Les catholiques disent, tu es Pierre, et sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas ça du tout. Jésus dit, tu es Pétros, et sur cette Pétra, donc c'est quelque chose de différent de Pétros, donc différent de Pierre, il ne dit pas sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, mais sur cette Pétra. Alors, la pierre, bien, c'est clair, c'est Jésus-Christ lui-même. Non, Jésus-Christ, la pierre du maître. Et Pierre vient juste de confesser, justement, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, c'est ça la pierre, c'est ça l'essentiel. L'Église, c'est ce qui est établi sur cette confession de la foi de Pierre, savoir que Jésus-Christ est le Messie et le Fils du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'était la confession de foi des premiers chrétiens. Par exemple, quand Philippe baptise le nuque éthiopien, il le baptise après que ce dernier ait confessé que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Voilà. Donc c'est ça la pierre sur laquelle se construit l'Église. Sur cette confession de foi-là, si quelqu'un ne dit pas Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, il ne peut pas être reconnu comme chrétien et il ne peut pas être reconnu comme membre de l'Église. Maintenant, pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es Pétros? Parce qu'effectivement, dans cette église qui est différente de Pierre, qui n'est pas Pierre, ça, Pierre occupe une fonction particulière. Il est une pierre importante, une pierre de soubassement. L'image de la pierre, l'image de la colonne est quelque chose qui revient souvent à la tradition juive de cette époque-là. Ce qui était à la retraite de Carré, ça vous en a un peu parlé. Mais par exemple, dans la tradition juive, on disait que les patriarches, Abraham tout particulièrement, étaient les colonnes sur lesquelles reposait l'édifice du peuple d'Israël. parce qu'il y avait des textes qui disent cela d'ailleurs dans le livre du prophète Ésaïe. Et il avait aussi cette idée que les 12 fils de Jacob étaient les pierres de fondation du peuple d'Israël. On trouve ça aussi dans l'Apocalypse, où on voit justement les pierres de ce basement de la Nouvelle Jérusalem qui portent et les noms des 12 apôtres et les noms des 12 patriarches. Et alors, Jésus ici veut dire une chose, n'est-ce pas, c'est que ces apôtres, le collège des 12, va avoir une fonction très précise et très particulière dans l'Église. Ils vont avoir pour fonction d'être et de poser les fondements doctrinaux, les fondements, je dirais, de structure. N'oublions pas que le Nouveau Testament n'existe pas à cette période-là. Et que, quelle va être la référence de la foi authentique, de la foi véritable pour l'Église primitive? Ce n'est pas le Nouveau Testament qui n'existe pas, c'est le témoignage des 12. Quand par exemple une église nouvelle est fondée, dans les livres des Actes, très souvent d'ailleurs les églises nouvelles sont fondées par des laïcs, ce qu'on appellerait des laïcs, qui témoignent, par exemple on voit ça à Antioche. Il y a des gens qui ont été dispersés par la persécution qui a suivi le meurtre d'Étienne à Jérusalem, qui arrive à Antioche, et qui prêche l'évangile, qui rend témoignage tout simplement. Ce n'est pas des apôtres, ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des évangélistes, c'est des saints chrétiens. Bon, il y a des gens qui croient et qui se rassemblent autour de la parole de Dieu et qui constituent une église. Oui, comme les Romains, pareil. Bon, alors la nouvelle, on arrive aux oreilles des apôtres. Ah, il faut que nous envoyions des apôtres. Ils envoient Pierre et Jean pour voir si l'évangile qui est prêché dans cette église est bien l'évangile qui est authentique, qui est fidèle. Et c'est eux qui peuvent dire, ok, bon, on reconnaît que ce qui a été créé là est authentiquement l'église de Jésus-Christ, parce qu'effectivement, l'enseignement qui est donné est vraiment l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur. Nous sommes, nous, les 12, les témoins de la résurrection de Christ. Nous sommes les témoins des événements qui ont marqué sa vie depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection et son ascension. C'est la définition de l'apostolat qui est donnée, vous souvenez, dans le premier chapitre du livre des Actes, au moment où il remplace Judas. Et par conséquent, nous sommes la référence. Lorsque Paul se convertit, et qu'il commence à prêcher, la première chose qu'il fait, c'est de monter à Jérusalem. Et il voit ce qu'il appelle les colonnes de l'Église, Pierre, justement, entre autres, mais on voit que Pierre n'est pas la seule colonne, d'ailleurs, il y a Jacques, il y a Jean, etc. Et là, il leur expose l'Évangile qu'il prêche. Et à lui de l'Évangile que Paul prêche, les apôtres de Jérusalem tendent à Paul la main d'association. Ça veut dire, ils disent, Paul, nous authentifions le message qui est le tien. Nous qui avons été avec le Seigneur, nous qui avons entendu son enseignement, qui sommes ses témoins oculaires, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, dire à l'apôtre Jean concernant la parole de vie, c'est ça que nous annonçons. Ils peuvent dire, bon, ce que toi tu annonces, Paul, c'est conforme à ce que nos oreilles ont entendu, à ce que nos yeux ont vu et à ce que nos mains ont touché. Donc, ce que tu vas créer, les églises que tu vas créer, seront dans la communion de l'Église universelle, parce qu'elles seront bâties sur le fondement solide du témoignage de Jésus-Christ, sur la pétra dont parlait Jésus. C'est ça, la fonction des 12. Lorsque les 12 disparaissent, à la fin de l'âge apostolique, ce rôle ne peut plus être effectué. Et c'est là qu'intervient justement ce que dit l'Église catholique. L'Église catholique dit, les apôtres disparaissent, mais ils ont des successeurs qui vont poursuivre cette œuvre, en quelque sorte, de témoignage, de discernement et d'unité. Ce sont les évêques. Et à la tête des successeurs des apôtres que sont les évêques, il y a le successeur de Pierre qui est le pape, le chef des évêques, le premier des évêques. Parce qu'avant toute chose, le pape est l'évêque de Rome. Or, qu'a dit l'Église primitive? Au moment où les apôtres ont disparu, qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle a écrit. Elle a écrit ce que les apôtres avaient transmis oralement et ce dont ils étaient les témoins. Et l'Église primitive a dit, voilà, ça, ce sont les écrits apostoliques. L'Évangile de Marc, l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, les Actes, les Épîtres de Paul, l'Apocalypse, les Épîtres de Pierre, les Épîtres de Jean, etc. Nous reconnaissons, nous qui avons entendu l'enseignement des apôtres, que ces écrits-là sont conformes à ce qui nous a été enseigné par ceux qui ont été les témoins de Jésus-Christ. Mais ce qui vient après, par exemple, toutes les lettres de Clément de Rome, qui a été un disciple de Paul, de Polycarpe, qui était un disciple de Jean, par exemple, qui avait connu l'apôtre Jean, la Didaquée, cet ouvrage très intéressant du début du IIe siècle, ça, ce ne sont pas des... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas joints au canon du Nouveau Testament. À la fin de l'âge apostolique, les apôtres disparaissent et à la place, il y a le Nouveau Testament. Il y a les écrits. Quand on met par écrit quelque chose, c'est parce qu'il n'y a pas de successeur. Et l'Église primitive, quand elle écrit le Nouveau Testament, quand elle reconnaît le Nouveau Testament, quand elle rassemble le canon du Nouveau Testament, fait acte d'humilité. Elle dit, la seule Église qui est normative pour tous les temps et pour tous les lieux, c'est l'Église des apôtres, dont les apôtres étaient le garant. Ils étaient le garant de sa pureté. Ils étaient le garant de la ligne que Jésus avait donnée. Eux disparus, plus personne ne peut accomplir ce rôle. Maintenant, quelle va être la référence pour savoir si telle était l'Église, si telle était le groupe, est conforme à l'enseignement du Christ, est vraiment fondée sur la Pétra? C'est l'enseignement des apôtres qui nous est conservé dans les livres. Donc c'est que les leaders de l'Église du IIe siècle, appelons-les les évêques, au sens catholique du terme, ne se sentent pas les successeurs des apôtres. Ils sentent qu'ils sont d'une autre nature. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne travaille plus en eux, ni au milieu d'eux, ni au milieu de l'Église de cette époque-là. Ça veut simplement dire que ce que le Saint-Esprit va faire maintenant, à partir de la fin de l'âge apostolique, ne sera plus normatif pour l'Église de tous les lieux et pour tous les temps. Donc que l'institution papale est impossible. Il n'y a plus ni un homme, ni un groupe d'hommes qui peut dire « ça, c'est la parole de Dieu d'une manière infaillible ». Et ce que moi je dis, ou ce que nous disons, en tant que synode, en tant que concile, etc., a autorité pour les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Personne ne peut dire ça. Si cela avait été, le Nouveau Testament n'existerait pas. Le Nouveau Testament existe justement parce que l'Église du IIe siècle a reconnu que là, les apôtres avaient un rôle unique et irremplaçable et intransmissible. Et lorsque l'Église catholique dit « Jésus a transmis à Pierre et à ses successeurs le pouvoir des clés », disons non. Jésus a donné à Pierre le pouvoir des clés, oui, exact. Pierre et aux autres apôtres. Pierre ayant une primauté certaine au milieu des apôtres, mais pas la primauté que côté protestant, ça, on a été réducteur. On a dit Pierre n'était qu'un apôtre parmi les autres. Non, c'est pas vrai. Il avait une primauté. Mais il n'était pas le pape. les apôtres. C'est pareil. Il n'était pas inférieur, il n'était pas absolu. On va voir pourquoi tout à l'heure. Il avait une Timothée, c'est tout. Donc, Jésus a transmis à Pierre et aux autres apôtres le pouvoir des clés. C'est-à-dire, le pouvoir de dire, voilà ce qu'est la sainte doctrine, voilà ce qu'est l'enseignement du Christ, parce que nous l'avons vu, nous l'avons entendu. L'Église catholique ajoute quelque chose au texte biblique. Elle dit à Pierre et à ses successeurs ce que la Bible ne dit pas. Et c'est là la faille. D'accord pour dire que Pierre a quelque chose de particulier de Dieu. Mais Pierre n'a pas de successeur. Et les apôtres n'ont pas de successeur. Au sens, je dirais, de l'autorité. Parce qu'ils sont les seuls qui, historiquement, ont vu le Seigneur, ont entendu son enseignement et en sont les témoins populaires, les garants. Historiquement parlant. C'est ça qui fait leur rôle unique. Jean-Paul II n'a pas vu le Seigneur en chair. Il ne peut pas authentifier les choses. Grégoire VI n'avait pas vu Jésus en chair. Pas, etc. Par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre avoir la même autorité que ceux qui ont vécu avec le Seigneur depuis le baptême, jusqu'au moment où il fut enlevé du milieu de Dieu. Il bâtira Pierre, justement, le jour de. Judas, vous savez, on tire au sort, qui va être le 12e, qui va être le témoin pouvant attester de l'authenticité des événements qui se sont produits au milieu d'eux, notamment les témoins de la résurrection. Alors, pour revenir à la primauté de Pierre elle-même, bien sûr, on notera par exemple que Pierre n'est jamais nommé comme pape, j'avais nommé comme ayant une autorité particulière en matière de foi plus que les autres. Il occupe une place importante dans la première partie du livre des Actes, puis disparaît au profit de Paul. Paul qui n'est pas un élu, qui est apôtre aussi dans le sens qu'il a vu le Seigneur dans la chair aussi, dans la dernière des apparitions du Seigneur, et partant, son témoignage a aussi valeur, je dirais, d'authentification. Il est un témoin de la résurrection, et il dira, je suis le moindre des apôtres, je suis comme l'avorton, je suis celui auquel il est apparu en dernier, quelque sorte, et qui n'est pas le privilège finalement d'être avec lui tout le temps. Bon, il est clair que le ministère de Pierre était davantage axé vers les païens. Il n'avait pas de vers les Juifs, je veux dire, et pas vers les païens, il n'avait pas de magistère sur toutes les églises. Il est clair qu'il n'intervenait pas dans les églises qu'avait fondées Paul. Quand il y avait des problèmes dans les églises qui avaient été fondées par Paul, c'est Paul qui exerçait l'autorité apostolique, c'était pas Pierre. Et réciproquement, on ne voit pas Paul intervenir dans les églises fondées par Pierre, il le dit explicitement qu'il se fait un devoir de ne pas travailler sur le terrain qui a été travaillé par un autre. Et que quand il vient à Rome, justement, c'est très intéressant, justement. Pierre est-il venu à Rome ? Problème historique important. Très important pour les catholiques. Pierre a-t-il fondé l'église de Rome ? Ah, alors les catholiques nous disent, voilà. Lorsque Pierre, vous vous souvenez, est libéré de la prison, miraculeusement par l'ange, qu'il entre en Jérusalem, il va dans la maison de la mère de Marc, je sais pas, une réunion de prière, précisément pour sa délivrance, il y a la servante qui va à la porte, est tellement étonné en voyant Pierre que laisse dehors, elle oublie de le faire entrer, puis il reste dehors à la porte. Donc elle va dire que Pierre est là, etc. Bon, et alors là, Pierre explique comment il a été délivré miraculeusement, et la Bible dit qu'il partit pour un autre lieu. Ah, disent les catholiques, et voilà, Pierre est parti pour Rome, il continue son ministère à Rome, il fonde l'église de Rome. Alors, nous pouvons dire qu'historiquement, ça ne fait pas. Pour une bonne et simple raison, que nous retrouvons quelques années plus tard, Paul, qui lui vient à Rome. Il prépare son voyage à Rome par une lettre qu'il envoie aux Romains, c'est notre épître aux Romains, dans laquelle il expose l'évangile qu'il prêche. Et c'est là qu'il dit justement qu'il s'est fait un devoir de ne pas prêcher l'évangile là où le Christ a été nommé. Donc de ne pas aller sur les plates-bandes, si j'ose dire, des autres apôtres. Et Paul, au moment où il dit ça dans la lettre aux Romains, dérogerait justement à ce principe qu'il expose pour aller marcher sur les plates-bandes de Pierre. Il ne saluerait pas Pierre quand il salue à la fin de sa lettre tous les chrétiens de Rome, saluer un tel, etc. Il ne saluerait pas Pierre, le pape. Ce serait un bon dégât. Non, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, Pierre n'est pas à Rome à ce moment-là. On peut conclure une autre chose, c'est que l'église de Rome n'est pas fondée par Pierre. L'église de Rome est fondée, comme l'a été l'église d'Antioche, par des chrétiens, qui se sont convertis par le ministère de Paul. On retrouve par exemple à Rome, justement dans les salutations que Paul envoie, des gens comme Aquilas et Priscille, des gens qu'il a connus à droite, à gauche, etc. Une telle qui a combattu avec moi, dans tel et tel endroit, etc. Enfin, relisez toutes ces salutations que Paul adresse aux gens qu'il a connus, qui sont de ses proches, qui sont de ses collaborateurs, et qui sont ceux-là qui travaillent à Rome. L'église de Rome n'a pas été fondée directement par Paul, mais elle est profondément paulinienne dans sa composition, car fondée justement par des gens de l'entourage de Paul, des collaborateurs proches ou lointains de Paul. Et c'est pourquoi Paul se sent une responsabilité envers cette église. Il n'en est pas directement le fondateur, mais elle est sous son autorité apostolique. Il lui écrit de cette manière-là, et il lui écrit avec cette prévenance, parce qu'il ne l'a pas fondée directement, il se sent des responsabilités envers elle, mais il ne veut pas froisser leur délicatesse. Alors, relisez ce qu'il dit à la fin, il dit, bon, je sais que vous êtes tous des gens qui sont spirituels, etc., qui sont très bien capables de vous exhorter vous-même, mais je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Il s'excuse presque, n'est-ce pas, de leur écrire comme il l'a fait. Avec espoir d'aller vers vous, etc. Et Paul se serait permis de faire quelque chose comme ça si Pierre avait fondé l'église de Rome. C'est absolument absurde. Alors maintenant, il existe une tradition sur laquelle Pierre est mort martyr à Rome au moment de la grande persécution qui a éclaté sur Néron en 63. Vous savez ce qui s'était passé en 63. Néron, qui croyait avoir des talents extraordinaires de poète et de musicien, qui chantait comme personne ne pouvait lui dire parce qu'il se retrouvait dans l'arène avec les lions de l'île. Si on lui disait, il trouvait que, quand même, ses chances manquaient une petite chose. Et alors, il avait pensé qu'il allait écrire une note tragique. Il faudrait que, pour qu'il soit inspiré, il soit devant un spectacle vraiment tragique. Alors, il avait décidé de faire une tragédie. Il avait ordonné à ce soldat de mettre le feu à Rome, qui était une ville composée de maisons de bois, beaucoup d'entre elles. Et Rome s'était mise à flamber comme une torche. Et pendant que cette tragédie horrible, il y a eu des milliers de morts qui étaient brûlés dans ce terrible incendie qui a ravagé Rome sur l'ordre de l'empereur, on voyait l'empereur des Romains qui était là, accroché sur les terrasses de son palais, en train de chanter, ou pas, en fait. Alors, évidemment, les Romains n'ont pas tellement apprécié. Et la révolte grondait à Rome. Et Néron a trouvé une solution, il a dit, mais attention, qui est responsable de l'incendie de Rome? C'est pas moi, c'est cette race de gens exécrables entre tous, ces ennemis du genre humain, que sont les chrétiens. Et ça a été la chasse aux chrétiens, la grande persécution contre les chrétiens, qui ont été arrêtés par milliers, et qui ont été affreusement persécutés, toujours dans son délire poétique. Néron avait fait paver justement le palais du Vatican, l'allée qui menait au palais du Vatican, de croix sur lesquelles étaient crucifiés les chrétiens. Et il les avait enduits de bois, puis il avait mis le feu. Et sur son char, n'est-ce pas, dans cette allée de torches vivantes, lui se promenait en chantant son pas sur sa vie, etc. au milieu des cris de douleur de ces malheureux qui brûlaient là sur les croix. Alors, évidemment, les chefs de la communauté romaine ont été, les de la communauté chrétienne, je veux dire, ont été les premiers visés. Et vraisemblablement, Paul, qui était à Rome dans ces années-là, a subi le martyr en tant que citoyen romain. Il a été décapité, il ne pouvait pas être crucifié puisqu'il était citoyen romain. Et la tradition qui affirme qu'il est mort décapité est sans doute exacte. Et c'est sans doute dans ce contexte-là qu'il faut situer les dernières épîtres, par exemple l'épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée où Paul parle de sa mort, de tous ceux qui l'ont abandonné. On comprend pourquoi ils l'ont abandonné, parce que là, effectivement, ce n'était pas drôle. Et alors, il y a une tradition qui dit qu'à ce moment-là, Pierre, pressé par les chrétiens, qui ne voulaient pas qu'il disparaisse, évidemment, qui se trouvait à Rome aussi, a quitté Rome, n'est-ce pas, et que, marchant en dehors de Rome, soudain, il a vu une apparition du Seigneur. Et alors, il se met à genoux, il dit, mais Seigneur, que fais-tu là? Où vas-tu? Où va-t-il dominer, n'est-ce pas? Où vas-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, je vais me faire crucifier à nouveau, puisque donc, toi, tu quittes Rome, tu quittes l'endroit de la persécution, et bien moi, je vais me faire crucifier. Et Pierre comprend l'allusion que le Seigneur fait, il retourne à Rome, il retourne dans le cirque, où les chrétiens sont en train d'être dévorés par les lions, et là, il les exhorte, évidemment, il est arrêté. Alors, il est condamné à mort, condamné à être crucifié. Et se souvenant du reniement qui a été le sien, au moment de l'exécution, il demande au soldat romain qui doit le crucifier, d'être crucifié la tête en bas. Et d'après la tradition, donc Pierre aurait été crucifié la tête en bas. Il semble que cette tradition soit assez juste, soit assez vraie. Mais alors, Paul, ou plutôt Pierre, serait venu à Rome vraiment dans les toutes dernières années de sa vie. Juste quelques autres, ou disons autour de l'année 60, n'est-ce pas, il serait resté tout au plus 2 ou 3 ans à Rome. C'est sans doute là qu'il aurait dicté l'évangile de Marc, à son secrétaire qui était Marc, justement, et il faudrait voir dans l'évangile de Marc, l'évangile de Pierre, qui est le plus ancien des évangiles, en fait, n'est-ce pas. Et donc, il aurait été mis à mort à ce moment-là. Mais, disons que son ministère à Rome a vraisemblablement été assez court, et il n'est pas donc l'évêque que l'Église catholique nous affirme qu'il a été. Alors, voilà en gros, si vous voulez, la critique que l'on peut faire de cette vision catholique, n'est-ce pas, où finalement on peut dire que le pape remplace le Saint-Esprit. C'est ça. Le pape remplace le Saint-Esprit. Et je crois que quand les premiers catholiques ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a une dizaine d'années de cela, je me souviens d'un moine qui disait ceci, que effectivement, maintenant que les catholiques avaient le Saint-Esprit, en quelque sorte, il y avait le même pape. Et que dans le fond, le pape allait bientôt pouvoir aller prendre sa retraite, etc. En fait, comment? Oui, anticipé. En fait, quelques années plus tard, vous avez fait machine arrière et le pape était très important, vous le disiez tout à l'heure, puisque l'Observatore Romano lut tous les matins et amené par courrier spécial directement de Rome, permettait aux chrétiens fidèles d'avoir la révélation du Saint-Esprit pour la journée d'une manière très précise. Alors, voilà donc cette énorme ambiguïté qui est là. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, en tant que chrétien issu de la Réforme, l'institution papale est quelque chose d'absolument inacceptable. Même dans sa définition actuelle, celle du ministère de l'Unité, tant que, de toute façon, le ministère de l'Unité, c'est le ministère apostolique. Encore aujourd'hui, les apôtres, non plus les apôtres successeurs des 12, mais les apôtres du type d'Éphésiens 4. Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Et là, nous sommes dans un type d'apôtres différent des 12. Les 12 ont un ministère spécial. Ce sont les 12 apôtres de l'agneau. C'est comme ça que l'Apocalypse les appelle. Ils ont la fonction d'être des fondements. On voit ça toujours dans l'Apocalypse. Et puis ensuite, il y a des apôtres en très grand nombre, aussi nombreux que le Seigneur les appellera. Ça, on sait par exemple que Barnabas était apôtre, mais il n'était pas des 12. Paul était apôtre, il n'était pas des 12. Bien qu'il y avait un statut un peu spécial, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais le Nouveau Testament laisse très clairement entendre qu'il y avait d'autres apôtres. Et une des fonctions d'apôtre, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est d'être justement ce ministère d'unité entre les églises. N'est-ce pas? Mais le ministère d'unité ne doit pas être un ministère unique, en aucune manière, le ministère d'un seul homme. Et ce qui doit primer n'importe comment et toujours, c'est la direction du Saint-Esprit. Le plus grand des prophètes, le plus grand des apôtres est faillible. Pierre était faillible. Il s'est fait reprendre par Paul. Paul était faillible. Il était infaillible quand il parlait par le Saint-Esprit pour ce qui est de la révélation du Nouveau Testament. En dehors de ça, personne n'est infaillible. Les prophéties doivent être jugées, même les prophéties des plus grands des prophètes. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre les prophéties qui viennent actuellement du Saint-Esprit sur le même plan que la parole de Dieu. pas, outre le caractère circonstanciel de ces prophéties, elles n'ont pas la même autorité. Et le ministère d'unité est un ministère qui est soumis au Saint-Esprit et non pas l'inverse. Le Saint-Esprit n'est pas soumis au ministère qui a la fonction, comme disent les catholiques, de l'unité. Car dans le fond, le pape a le monopole du Saint-Esprit. C'est lui qui décide qui va être saint, qui va pas être saint, n'est-ce pas, qui va sortir du purgatoire dans 1000 ans, dans 500 000 ans, etc. Alors, je caricature, bien sûr, un peu. Mais en fait, c'est un peu ça qu'on a. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien issu de la réforme, l'institution papale, c'est quelque chose qui ne passe pas. Alors, évidemment, le catholicisme ne peut pas remettre ça en question. Il est très fier de l'institution papale. L'institution papale, c'est la clé de voûte du système. Enlever le pape, il n'y a plus d'église catholique. Enlever le pape, il n'y a plus d'église du tout. Pour eux, l'église, c'est cette tradition, cette transmission, n'est-ce pas, cette chaîne qui va depuis Saint-Pierre jusqu'à Jean Paul II, et puis au-delà, si le Seigneur tarde à revenir, etc. Et c'est ce qui fait la pérennité de l'église, c'est ce qui fait son caractère imposant, n'est-ce pas. Elle s'est trompée parfois, oui, c'est vrai, elle est faillible, elle est humaine, mais elle a toujours été préservée divinement en la personne de ses papes des erreurs essentielles. Elle est toujours restée d'aplomb sur l'essentiel, même si ponctuellement il y a eu des erreurs qui ont été faites, l'intuition des petits bagatelles sur lesquelles on peut passer rapidement, mais pour ce qui est essentiel, elle est restée fidèle grâce à la direction du Saint-Esprit qui s'est incarné dans les papes. Alors là, il y a quelque chose d'irréductible entre les chrétiens issus de la réforme et puis le catholicisme. À partir du moment où le catholique en question de l'institution papale, il n'est plus catholique. Il y a des catholiques de base, c'est eux qui la remettent en question. Mais au niveau de la hiérarchie, c'est absolument possible. Alors voilà, en gros, si vous voulez que l'on se situe ce problème de l'institution papale, qui est cette clé de voûte, finalement, du système catholique, du système. Voilà, est-ce que vous avez des questions rapidement à poser?
Mais ça, c'est comme pour faire du jour au lendemain, quoi?
On fait du jour au lendemain.
Alors, à partir de quand on ne va pas se fixer?
C'est fixé très vite quand même. C'est fixé, disons, après les premiers conciles. Enfin, oui. En fait, disons, au Moyen-Âge, au moment des invasions barbares, quand l'Empire romain d'Occident s'écroule, et que l'Église. Devient en quelque sorte le support qui sauve l'héritage du monde gréco-latin et qui reprend aussi une fonction temporelle très importante à ce moment-là. Le pape devient le chef de Rome à ce moment-là.
C'est dans ce contexte que se la cité de Dieu, c'est de Moustan.
Ah oui, c'est ça, oui. Exactement. L'Église qui se confond avec la société civile, le système constantin. Ça fait tant de tort à l'Église. Comment ils ont... C'est parce que justement, ils avaient été chassés de leurs états par des troubles politiques à Rome. Ils avaient dû se replier dans un contrat qui leur avait été donc accordé là-bas à l'Union. Mais ça a toujours été considéré dans l'histoire par les historiens de l'Église catholique comme une situation tout à fait normale, c'était l'exil. Ils appellent ça l'exil d'Avignon. Il n'avait qu'un seul souhait, c'est de retourner à Rome. Il y a eu un autre temps où le pape a été exilé de Rome, ça a été sous Napoléon. Napoléon qui avait pris Rome et qui avait déporté le pape. Le pape avait passé un très mauvais quart d'heure à ce moment-là. Et puis alors, ensuite, au moment de 1870, avec Gallipaldi qui aussi avait chasser le pape avec perte et fracas devant. Le pape s'était considéré jusqu'à Mussolini comme prisonnier de l'État italien. Il y avait un conflit très aigu entre l'État italien et la papauté entre 1870 et 1936 jusqu'à Mussolini. Il était prisonnier avant. Alors, les papes sont choisis par le collège des cardinaux, qui ont justement pour fonction essentielle d'être ceux qui élisent le pape. Le pape de son vivant désigne les cardinaux. hein, quand un cardinal meurt, regarde, c'était 120, je crois. Et je crois que c'est Jean-Paul, c'est Paul VI plutôt qui a nommé des nouveaux cardinaux, notamment des cardinaux du tiers-monde, des noirs, etc. Et alors, lorsque le pape meurt, le pape en titre, en principe, les papes sont éligibles à vie, sont élus à vie. Éventuellement, ils pourraient démissionner, mais en fait, ça ne s'est jamais fait. Mais quelquefois, des papes ont terminé tragiquement, soit qu'ils ont été assassinés ou empoisonnés, soit qu'ils ont été déposés. Il y a eu des temps où il y avait des antipapes. Alors, il y avait par exemple, à une certaine époque, un premier pape qui avait été déposé parce que son élection n'était pas valable, on avait élu un deuxième, et la bagarre, c'était le combat des chefs, un petit peu comme l'Astérix. Alors, du coup, le un troisième pape, après avoir déposé les deux premiers. Si bien il y avait trois papes en vie, enfin, c'était terrible. Alors, par exemple, c'était Jean 23 qui était l'antipape. C'est pour ça que, en fait, Jean 23 n'est pas reconnu dans la nomenclature des papes, que par l'Église catholique.
Ce qui fait qu'il a pu être pris par l'autre.
Par l'autre, celui, le Jean 23 moderne. Alors, lorsque le pape meurt, les cardinaux électeurs se rassemble à Rome, au Vatican, dans la chapelle Sixtine, en conclave, ce qu'on appelle le conclave. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés à clé parce que justement, au Moyen-Âge, il y avait de telles bagarres, des pressions. Il y a des partis, véritables partis, alors, ils étaient payés pour élire un tel, etc. Et puis, alors, ils étaient menacés de mort s'ils ne votaient pas bien, quoi. Alors, pour éviter toute pression, pour que les choses se fassent tout à fait conduites par le Saint-Esprit, le pape, les cardinaux sont enfermés hermétiquement dans la chapelle Sixtine, les portes sont fermées, on ne peut pas s'arranger par des guichets, et puis ça dure aussi longtemps qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont simplement aussi longtemps qu'ils ne sont pas d'accord. Ça fait très longtemps. Alors tous les soirs, les bulletins de vote sont brûlés. Et alors il y a une fumée spéciale qui sort. Si c'est une fumée blanche, c'est que le pape n'a pas été élu. On ne s'est pas mis d'accord sur un pape.
Ou le contraire, je crois.
Ou c'est l'inverse du fumée noire.
C'est fumée noire, c'est
un peu blanche. C'est ça, le fumée noire qui indique que le scrutin est nul, quoi, il n'y a pas encore de pape. Puis le matin, où il y a une fumée blanche alors qu'il sort, c'est quand même le pape est élu, alors qu'il a oublié les portes du pape là, et le nouveau pape sort au balcon, donner sa bénédiction, urbi et orbi. C'est un des cardinaux obligatoirement. Enfin, pas vraiment. Vous pouvez dire n'importe qui. Mais en fait, c'est toujours un cardinal. Et c'était jusqu'à ces derniers temps, toujours un Italien.
Ce qui fait que Jean-Paul II,
Jean-Paul II est la première exception à la règle. Et il a effectivement de grands problèmes avec la curie romaine parce qu'il n'est pas polonais. Enfin, il est de taille. Hein.
Non,
il fait un
peu plus avant. Tu as encore une question? Parmi les doutes que vous avez parlé pour avoir la tournée, Léon de la Tourbateur?
Oui, sans doute. Ou alors certains pensent que c'est un peu trop fort. Bon, eh bien, on va voir.